Le journal présenté par Marceline Michon.
Bonjour, la crèche aux 5 sens va tirer sa révérence. Dernier jour pour admirer les quelques 1500 santons à l'église Saint-Pierre à Porrentruy. 50 000 visiteurs ont fréquenté ces scènes évolutives. 47 minutes, le HC Ajoie a tenu tête au leader de National League durant un peu plus de 3 quarts d'heure hier soir avant de couler pour s'incliner 5-2 contre Davos. Réaction de Reto Schmutz à suivre. C'est la folie au Maroc à quelques heures de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Marocains attendent le titre depuis 50 ans et la folie s'empare aussi des Marocains du Jura. Deux menus météo aujourd'hui. En dessous de 800 mètres, c'est le stratus. Au-dessus, le soleil. Maximum 3 degrés en plaine, jusqu'à 7 degrés au-dessus des nuages. Programme similaire demain. C'est le dernier moment pour admirer la crèche aux 5 sens à Porrentruy. Après 7 semaines d'exposition à l'église Saint-Pierre, les quelques 1500 santons vont retourner dans les cartons. L'aventure se termine ce soir à 18h. L'un des créateurs de la crèche, Maurice Bianchi, dresse le bilan de cette édition jurassienne.
Nous sommes vraiment enchantés, Créa et moi, d'être venus pour la première fois dans le Jura et d'avoir eu un accueil vraiment extraordinaire de la part des gens. On a rencontré des gens formidables. Comme toutes les années, on fait des super rencontres et surtout une expérience un peu particulière cette année puisque nous avons eu l'occasion donc de passer sur France 2 le jour de Noël dans l'émission Le Jour du Seigneur. Et ça, bien sûr, que ça a attiré beaucoup de personnes qui sont venues de France et ça nous a permis de faire de nouvelles rencontres. On a beaucoup de visiteurs depuis le nombre d'années qu'on fait la crèche aux 5 sens qui nous suivent. Alors, on a eu des gens qui sont venus depuis Genève, il y a eu des gens qui sont venus depuis Suisse allemande, des Français qui sont venus, j'ai accueilli un couple qui venait de Briançon, donc c'est pas la porte à côté. Et puis au niveau chiffrage des visiteurs, c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on les a pas vraiment comptés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a estimé les jours de forte affluence où il y avait plus de 2000 visiteurs. Si on fait une moyenne très grossière, je pense qu'on peut estimer le nombre de visiteurs environ à autour des 50 000 visiteurs pour cette édition.
Et pour accueillir ces nombreux visiteurs, quelques 80 bénévoles ont été mobilisés. Sylvie Girardin a veillé sur la crèche une dizaine de jours et toujours avec autant de plaisir à répondre aux interrogations des visiteurs.
Il y en a qui disaient quel est le rapport avec les 5 sens, des questions par rapport à l'aspect sonore ou à l'odorat. Si vous allez vers les fontaines, on entend l'eau couler, ou il y a le sanglier à la broche qui tourne, on l'entend tourner. Depuis que les rois sont arrivés, il y a la myrrhe qui est dans la crèche. Donc là, encore cet après-midi, les enfants sont venus me demander où c'est qu'ils pouvaient sentir quelque chose. Alors je les ai envoyés vers la crèche pour sentir la myrrhe. Sinon, il y a de la lavande. Moi, ce qui m'a frappé à la deuxième visite, c'est alors l'odeur du foin, par exemple. Et il y en a qui me disent, oui, on n'a pas vu Marie, on n'a pas vu Joseph, ils sont où? Notamment le 23, ben je leur ai dit, allez voir du côté de l'auberge, Joseph est en train de demander une chambre. On a l'impression de vivre les choses, qu'ils vivent les choses. Et d'être à leur contact, ça nous donne aussi du baume au cœur, puis de pouvoir montrer ça aux visiteurs, c'est fabuleux. On a l'impression d'être un peu hors du temps, puis on est avec les gens, on est bien. C'est un moment, c'est paisible, c'est plein d'émerveillement.
La prochaine édition de la crèche aux 5 sens se tiendra dès la fin de l'année au temple réformé de Gland. Savez-vous ce que vos proches souhaiteront quand la mort approchera? Est-ce que vous souhaiterez le jour de votre mort? Des questions qui peuvent déranger, mais auxquelles nous devrons répondre tôt ou tard. Depuis l'automne dernier, le jurassien Maï Biderman réalise le podcast « C'est pas la mort » consacré à la question de la fin de vie. Une série de 8 épisodes proposée par les sections romandes de Palliative Suisse en collaboration avec le magazine Génération et qui rassemble des témoignages et discussions personnelles entre proches. Maï Biderman explique pourquoi il est selon lui important de parler de la mort.
C'est important parce qu'en fait, la mort, c'est un passage qui, a priori, est obligatoire pour tout le monde. On va tous et toutes y passer. Donc, on a tout intérêt aussi à peut-être préparer et à envisager ce passage pour qu'il se passe de la meilleure des manières.
Si vous estimez qu'il faut en parler, c'est peut-être aussi parce que vous estimez qu'on n'en parle pas assez. Est-ce que c'est un sujet tabou aujourd'hui et pourquoi ?
Tabou, je sais pas. Je pense que ça dépend aussi des situations familiales, mais difficile, ça c'est sûr. Et je pense que c'est difficile pour tout le monde, même pour des gens qui peut-être auraient l'habitude de parler de la mort dans leur milieu professionnel, d'avoir cette discussion avec ses proches et d'avoir cette discussion, disons, jusqu'au bout. C'est difficile parce qu'on a peur de blesser les autres, on a peur de dire des choses peut-être qui font mal ou qui déstabilisent les autres. Donc oui, c'est un sujet difficile.
Et personnellement, est-ce qu'il y a un impact aussi? Est-ce que ça a provoqué chez vous des questionnements, peut-être des difficultés quant à la gestion des émotions?
Ce qui me vient en tête, c'est par exemple le deuxième épisode. On discute avec Stéphanie et son fils Lucas. Lucas, il a 26 ans. Stéphanie, elle a un cancer métastasé. Elle sait qu'elle est potentiellement en fin de vie. Et puis en fait, d'entendre Lucas qui dit qu'il va peut-être perdre sa maman d'ici ses 27 ans, c'est clair que c'est hyper difficile et triste. C'est triste pour les deux, mais c'est triste pour moi aussi. Et puis en même temps, de l'autre côté, dans ce témoignage, ce qui est hyper beau, c'est qu'ils disent qu'ils sont en train de vivre la meilleure année de leur vie, en train de vivre l'année où ils font le plus d'activités ensemble, où ils se racontent le plus de choses ensemble. C'est assez ambivalent et c'est clair que ça ne va pas sans les émotions qui vont avec.
Et retrouvez plus d'informations sur le podcast C'est pas la mort sur rfj.ch. Une association pour soutenir financièrement les proches des victimes de Cran Montana, Swiss Hearts, a été créée par un groupe de parents touchés par le drame du Nouvel An. L'objectif est de créer un fonds centralisé qui puisse redistribuer l'argent aux familles en fonction des besoins, expliquent ses fondateurs au matin dimanche. Prise en charge des coûts de transport, d'hébergement ou d'hospitalisation par exemple. Cette association à but non lucratif n'entend pas se substituer aux assurances ou fonds publics et privés déjà existants. Assouplissement en perspective dans les dons du sang en Suisse. De nouvelles modalités entreront en vigueur dès le 1er février. Par exemple, les patients qui ont bénéficié d'une transfusion sanguine ne seront plus exclus des dons du sang, mais devront observer un délai de 4 mois. Motif, le risque de transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, dite de la vache folle, est aujourd'hui jugé extrêmement faible lors des transfusions. Certaines interventions médicales ne seront plus non plus considérées comme des facteurs de risque. Précision, Deuslem Isa, directrice du service régional neuchâtelois et jurassien de transfusion sanguine.
Deux situations principales, surtout hein, des neurochirurgies en Suisse, des opérations cérébrales ou la moelle épinière avec ouverture de la dure-mère. On peut donner notre sang avec un délai d'attente après 12 mois. Avant, c'était une contre-indication définitive pour le don du sang, maintenant c'est délai 12 mois. Et puis les implants dentaires posés en Suisse après 1993. Et puis don à nouveau possible avec un délai minimal de 2 semaines. Et puis selon la complexité de l'intervention, mais c'est vraiment cas par cas. On est obligé de prendre à toutes les questions.
Ces assouplissements pourraient inquiéter certains bénéficiaires des dons du sang. Alors est-ce que la sécurité et la qualité des dons restent assurées? On retrouve Euslem Izarci.
La sécurité des receveuses et des receveurs, hein, de tous les patients, reste la priorité absolue. On est bien d'accord. Alors les dons continuent de faire l'objet d'une sélection médicale rigoureuse, de contrôle strict et de procédés modernes dans les techniques de production qui réduit bien sûr fortement le risque de transmission. Donc toutes les adaptations, je dois vous dire, peut-être encore ont été validées par un Swissmedic.
Et quelques mots de l'actualité à l'étranger. L'Union européenne met en garde Donald Trump et se dit déterminé à défendre sa souveraineté. Le président américain a menacé d'augmenter à 25% les droits de douane de 8 pays européens jusqu'à ce qu'un accord soit conclu pour la vente du Groenland. Donald Trump accuse ces pays de jouer à un jeu dangereux après l'envoi de militaires européens au Groenland destinés à contrer ses velléités de mettre la main sur ce territoire. Une réunion extraordinaire des ambassadeurs des 27 pays de l'UE est prévue cet après-midi à Bruxelles. Et cette information insolite avant de passer à l'actualité sportive, des traces de rivières ont été décelées sur Mars. Cette découverte est le fruit du travail d'une équipe internationale de chercheurs dirigée par l'Université de Berne. Elle prouve, selon les scientifiques, que la planète était recouverte d'un océan et que Mars pouvait représenter autrefois des conditions favorables à l'apparition de la vie.
12h24,
RFJ, sport.
Émilie Mumenthaler, vous nous avez rejoint pour l'actualité sportive. Les skieuses suisses sont toujours loin des meilleures en vitesse.
Oui, des gens retraits hier lors de la descente de Tarvisio. Aucune Suissesse n'est parvenue à entrer dans le top 10 du Super G qui s'est tenu ce matin dans la station italienne. La meilleure d'entre elles est Johanna Ellen qui pointe au 13e rang. La victoire est revenue à Emma Eicher. L'Allemande possède 27 centièmes d'avance sur l'Américaine Lindsey Vonn et 94 sur la Tchèque Esther Ledecka. Plus loin, Corinne Souter est 22e, juste devant Yasmine Flouri, Mallory Blanc et Stéphanie Grobe. Côté masculin, Loïc Meillard est bien placé après la première manche du slalom de Wengen pour offrir un nouveau podium au public suisse. Le Neuchâtelois d'Eremans est actuellement 2e à égalité avec le Norvégien Henrik Kristoffersen. Ils pointent tous les deux à 40 centièmes d'un autre Norvégien, Atleli McGrath, qui a dominé les débats. La première manche a été marquée par des écarts importants et de nombreuses éliminations, dont celle du Vaudois Marc Rochat et du Genevois Tanguy Neff, qui nous fait part de sa déception.
Ouais, je pense que j'étais bien parti pour un top 5 provisoire, je dirais. Il y avait des bonnes choses. J'aurais voulu mieux rentrer dans le mur et bien sûr pas faire la faute à la double. Mais ouais, c'est un peu frustrant parce que voilà, je sais que j'avais toutes les clés là et j'ai pas bien exécuté.
Dans l'air d'arrivée, plusieurs skieurs ont relevé que les conditions de la piste n'étaient pas très bonnes. Une neige très changeante entre les différents secteurs. Une voie s'est élevée plus haute que les autres et Tanguy Neff a son avis sur laquelle.
Pas mal de skieurs, donc Henrik Kristoffersen qui ne parle pas mais qui crie sur les organisateurs, c'est ça que vous voulez dire? C'est Henrik, hein. Il essaie d'avoir son 100e podium, donc on va le laisser faire ses petites crises. Mais en général, il est dangereux quand il crie, donc nous, on essaye de ne pas trop l'énerver. Mais moi, je me suis concentré sur ma course. C'est vrai que voilà, c'est des conditions un peu spéciales, mais j'ai l'impression qu'on s'habitue un peu trop sur les conditions d'entraînement qu'on a, qui sont quasi tout le temps parfaites, en fait. Et on se dit, ok, c'est un peu différent, puis ça nous crispe un petit peu. Et ça, c'est en tout cas le cas de moi aujourd'hui, je pense. Et il n'y avait vraiment pas grand-chose, il fallait simplement attaquer. Et ouais, Atlé, c'est un bon exemple. C'est un gars qui arrive à attaquer dans toutes les conditions, toutes les pistes. Moi aussi, assez normalement. Donc ouais, ça pique un peu.
Des propos recueillis par notre envoyée spéciale à Wengen, Lydiane Guenin. Les conditions devraient encore évoluer pour la deuxième manche. Outre Loïc Meillard, Daniel Yule et Mathias Itten, qui sont respectivement 17e et 23e, seront au départ dès 13h. Le HC Ajoie a regardé le leader de National League les yeux dans les yeux. Face à Davos, les hockeyeurs jurassiens ont tenu 47 minutes hier avant d'encaisser 3 buts et de s'incliner 5-2 à Porrentruy au terme d'un match très plaisant. Cette défaite honorable a mis un terme à une semaine marquée par les deux premières victoires de l'année. La partie contre les Grisons a permis à un certain Reto Schmutz de bénéficier enfin de la confiance de son entraîneur. L'attaquant avait joué en tout et pour tout 22 minutes et demie depuis le début de la saison. Aligné dans le quatrième bloc, le Turgovien d'origine a savouré ses rares moments. Il livre son analyse de la rencontre, Reto Schmutz.
En ensemble d'une équipe, on a fait un bon match. On l'a fait, c'est pas pour rien, ils sont tout en haut du classement. Et puis, mais je pense que si toutes les soirs on a un effort comme ça, c'est bien.
On a l'impression qu'Ajoie a fait beaucoup de bonnes choses. Sur la fin, il a manqué peut-être ce petit soupçon d'énergie pour les embêter jusqu'au but.
C'est difficile à dire, je sais pas si c'est l'énergie. Je pense notre power play, il a marqué 2 buts. Et puis après, c'est dommage, en 55 peut-être, on doit. Même si on a bien joué, je pense, jeu offensif, on pourrait créer encore un peu plus des occasions et puis comme ça peut-être en marque un troisième ou même un quatrième. Ouais. Je pense que la base est là, maintenant il faut encore concrétiser un peu plus.
À titre personnel, quand on joue aussi peu, ça ne doit pas être simple tous les jours, pas simple non plus, de rentrer dans un match pour avoir le rythme.
Oui, c'est pas facile, mais on s'entraîne pour ça. Et je fais quand même tous les jours les entraînements, je fais même un peu plus que les autres qui jouent tout le temps pour être prêt pour ces matchs comme ça. Et puis une fois on a la chance, il faut la prendre et puis il faut essayer de donner son mieux. Et puis je pense pour aujourd'hui, c'est assez bien allé pour moi. C'est pas parfait, mais c'est pas facile comme tu dis, mais je continue.
Des propos recueillis par Régis Cerf. Prochain match pour le HCA, vendredi à Langnau. Le HC Franche-Montagne tout saute avant de l'emporter. Après avoir battu le leader Zeven mercredi, les Jurassiens ont dû cravacher pour prendre le meilleur sur l'avant-dernier de Mayo Hockey League. Victoire 4-2 contre Bullard hier à Seignelay-Légier. Les Taignons se sont rapidement détachés de deux longueurs avant d'être rattrapés en l'espace de 25 secondes à la mi-match. Ils sont finalement parvenus à passer l'épaule en fin de partie. Le HCFM reste dauphin avec le même nombre de points que le premier, mais avec un match de plus au compteur. Le BC Beaucourt n'a pas tenu la distance. Les basketteurs à Julot se sont inclinés 68 à 53 sur le parquet des Gold Coast Wallabies hier à Erlenbach lors de la dernière journée de la phase préliminaire de Ligue B. La Red Team menait 37 à 31 la mi-match avant, face au quatrième du classement avant de laisser filer la partie. Louis Ruclin a inscrit 12 points pour son premier match avec le BCB. L'équipe de Nemanja Chalazan retombe provisoirement à la dernière place du classement avant de disputer la phase intermédiaire du championnat avec les 8 dernières équipes du classement. Le volleyball Franche-Montagne a l'occasion de faire un immense pas vers les play-offs. Les Jurassiennes reçoivent Toggenburg à 16h30 à Seignelay-Gier en Liga. Une victoire leur permettrait de prendre 12 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour et la barre, alors qu'il ne resterait plus que 4 matchs à disputer dans la saison régulière. Résultats retrouvés dans le journal de 18h et réactions demain dans la matinale. Cela fait 50 ans que le Maroc attend cela. Pays organisateur, les Lions de l'Atlas disputent la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football ce soir. Ils affrontent le Sénégal pour une finale au sommet entre les deux meilleures équipes du continent. Coup d'envoi à 20h à Rabat, dans un stade qui peut accueillir 68 000 spectateurs. Le Maroc est en quête d'un deuxième sacre dans la compétition après celui remporté en 1976. Sous les ordres du sélectionneur Walid Regragui, les Marocains ont déjà atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Ils sont poussés par une grande ferveur populaire avant cette finale. Le président de l'Union marocaine du Jura, Abdel Tajani.
On l'attendait depuis le début quand même, mais on ne voulait pas être heureux avant que ça se fasse. Pour nous, c'est déjà une victoire d'arriver là, en tant que spectateur et puis en tant que Marocain.
Quel est l'engouement sur place autour de l'équipe du Maroc ?
Alors, j'ai eu de la chance d'être fin de l'année au Maroc. Il y avait déjà une sacrée ambiance. Tous les lieux étaient vraiment vivaient le foot. Que ce soit des magasins, que ce soit les parcs pour enfants. Il y a vraiment une belle ambiance déjà quand j'y étais. J'étais le premier jour quand il y a la CAN qui s'est ouverte à l'ouverture officielle. Et aussi en Suisse, on voit que autant même les gens ici qui suivent le foot suivent vraiment la CAN. Et puis c'était une première cette année.
Puis maintenant, pendant le tournoi, avant cette finale, on sent aussi beaucoup de ferveur là-bas.
Beaucoup de ferveur et puis beaucoup de fraternité. On le sent avec toutes les équipes africaines. Comme il y a pas mal qui jouent aussi en Europe, on voit que c'est quand même suivi par toutes les nations. Et puis c'est un vrai plaisir. Peu importe le gagnant, on voit dans les 4 dernières équipes, c'est 4 super équipes qui ont joué. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de plaisir, peu importe qui c'est qui gagne ces 4. C'était déjà un plaisir qu'ils soient les 4 là.
Ça fait 50 ans que le Maroc attend. Qu'est-ce qui fait que ça pourrait être la bonne année ?
Un peu les ingrédients, un facteur chance dans toutes les disciplines sportives, il y a le facteur chance. Après, il y a le facteur travail, il y a un grand travail qui a été fait. Et puis, il y a tous les ingrédients. On est à la maison, il y a une infrastructure qui est favorable. Ils jouent à des conditions qui sont vraiment bien au niveau de toutes les équipes par rapport à d'autres pays où ils ont joué. Ils faisaient des 30, 35 degrés. Et il y a vraiment tous les ingrédients pour qu'on ait le meilleur foot.
L'Union marocaine du Jura organise la diffusion de cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur grand écran ce soir au Tabou à Moutier. Coup d'envoi du match entre le Maroc et le Sénégal à 20h. Et la troisième place de cette CAN est revenue au Nigeria qui a battu l'Égypte 4-2 au tir au but alors que le score était de 0 partout après 120 minutes de jeu lors de la petite finale.